Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci, chers auditeurs, de nous être fidèles tous les samedis. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein, suivi du débat de la semaine. Le monde a-t-il besoin d'un gendarme? Faut-il regretter que les États-Unis renoncent à dominer l'ordre mondial? Question paradoxale, certains d'entre vous les jugeront choquantes, mais question qu'on peut se poser quand on regarde l'histoire dramatique qui se déroule au Moyen-Orient depuis le retrait américain de Syrie. L'offensive turque, l'intransigeance d'Erdogan sont peut-être autant de signes de la fin de l'hégémonie américaine. Notre invité pense même que nous sommes entrés dans l'âge post-hégémonique. Comprenez un monde où les notions de pouvoir et de puissance seraient profondément bouleversées. C'est l'un des meilleurs spécialistes des relations internationales, professeur à Sciences Po, l'auteur de plusieurs ouvrages qui font référence. Bertrand Badi publie « L'hégémonie contestée » chez Odile Jacob et il est l'invité du grand face-à-face aujourd'hui. Rendez-vous avec lui dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Et d'abord le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va rentrer directement dans le vif du sujet.
La France est une république qui a progressivement placé la laïcité au cœur de ses valeurs. Il y a d'une part l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. J'en rappelle les termes. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Par la loi.
C'était le Premier ministre Édouard Philippe ce mardi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Et sans rentrer de nouveau sur cette polémique, ce débat sur le voile, je voulais juste avoir votre avis à l'un et à l'autre. On en est vraiment là en 2019. Il faut que le Premier ministre se sente obligé de rappeler aux parlementaires, aux députés, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, Gilles?
Il le rappelle pas seulement aux parlementaires, il le rappelle aux Français. On a un épisode supplémentaire d'une hystérisation récurrente du débat public qu'on a depuis 30 ans. On l'avait analysé ici même pour l'anniversaire des 30 ans des foulards de Creil. Là, quand les jeunes journalistes de l'école de Toulouse ont comptabilisé le nombre de débats qu'il y a eu cette semaine sur les quatre chaînes d'information continue.
Les résultats sont fascinants.
C'est fascinant. 85 débats, 286 invités, c'est absolument fascinant. Donc, hystérisation à nouveau, le Premier ministre rappelle, c'est la moindre des choses, la loi, mais je crois que c'est assez...
Enfin, plus que la loi, là, il parle des principes fondamentaux, est-ce qu'il a besoin de le rappeler, donc non seulement aux députés, mais de nous le rappeler, puisque vous venez de dire qu'il s'adressait aussi aux Français?
Non, mais il rappelle la loi, puisqu'il y a un débat sur la loi. Et en effet, premier point, un élu, même du Rassemblement National, doit respecter la loi. Et la loi actuellement, on peut être contre la loi, on peut vouloir la faire changer, mais la loi actuellement autorise les signes religieux pour les accompagnatrices de sortie scolaire. Après, on peut discuter, est-ce que cette loi est bonne, est-ce qu'elle est bien faite, etc. Mais ça, c'est la règle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cet élu du Rassemblement National a fait un cadeau magistral à tous les islamistes rigoristes qu'il prétend combattre.
Vous parliez de Julien Odoul, RN
voilà.
Du Conseil
il
régional de
Il leur a fait un cadeau fabuleux parce qu'il leur a offert un élément de communication et une martyre. Et donc, de ce point de vue-là, nous voyons très bien comment le Rassemblement National fracture la France comme les islamistes. De l'autre côté, on a cette mécanique où l'un et l'autre se renforcent. Et je rappelle que le Rassemblement National, qui s'appelait avant Front National, a combattu de façon virulente la loi de 2004 interdisant les signes religieux à l'école.
Oui,
donc je
paradoxal.
Pense que non, c'est pas paradoxal, ça s'appelle de l'opportunisme. Donc je pense que la laïcité, en fait, ils s'en brossent le nombril avec le pinceau de l'indifférence, c'est pas leur problème. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça ne relève pas de la loi, ce problème-là. En revanche, on peut en discuter et en discuter posément. Nous avons une visibilité de plus en plus grande de la religion dans l'espace public. qui va à l'encontre de ce qui était le projet philosophique des Lumières, l'idée de l'émancipation des individus, qui peu à peu, justement, faisait de la religion un élément intime, parce que ça ne gouvernait pas leur vie et que c'était la raison qui gouvernait leur vie. Faut-il se réjouir de voir cette visibilité de plus en plus grande ? Je ne pense pas, et il faut discuter de ce que ça implique et de ce que ça révèle de l'état de notre société.
Est-ce que ça révèle aussi de fractures dans les partis politiques, Gilles ?
Oui, dans les partis politiques, je trouve que c'est un bon signe de la déstructuration du paysage idéologique français. La République En Marche s'est construite sur les divisions internes de la gauche et de la droite, notamment sur la question européenne, rassemblant les pro-européens des deux camps. Mais depuis lors, la République En Marche, à son tour, a été fracturée par la question sociale, avec, disons, pour faire simple, un des marcheurs de gauche et des marcheurs de droite, et elle se trouve aujourd'hui fracturée.
Pourtant, c'est pas un clivage droite-gauche.
Non, j'ai dit sur la question sociale, et là, elle se trouve fracturée en son sein, comme beaucoup d'autres familles politiques, syndicales, associatives, par la question de l'immigration, par la question de la laïcité, par la question de l'islam. C'est vrai de ses dirigeants, on a vu quand même cette semaine une montée des tensions que l'on n'avait jamais vues. Vous avez un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui demande qu'un député soit poursuivi devant la commission des conflits de son parti. Vous avez une poignée de députés de La République En Marche qui prennent position publiquement contre les propos de leur porte-parole. Donc c'est vrai des dirigeants, mais c'est vrai aussi des électeurs. Sur tous ces sujets-là, ils sont partagés, en gros, à 50-50.
Et donc, les électeurs de La République En Marche ?
Oui. 50-50 sur à peu près toutes ces questions-là.
Natacha.
Enfin, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la question du voile en effet fracture la société, parce qu'elle est mal posée en fait. Et je pense que c'est bien ça le problème. Et on voit dans les débats de La République En Marche à quel point on a aujourd'hui une inculture, une incapacité à réfléchir de façon conceptuelle sur ce qu'est la laïcité, comment elle s'est construite en France, l'histoire du rapport à la religion, la question de, enfin, la différence entre espace public et espace privé, qu'est-ce que ça recouvre exactement. Tout ça me semble absolument affligeant, mais le modèle des chaînes d'information continue, hélas, ne permet absolument pas de poser le débat correctement. Et cette façon d'amplifier une question par les débats permanents, parce que ça fait du temps d'antenne pas cher. Je pense que c'est absolument
réunir
dramatique.
Des gens qui ne sont pas d'accord autour d'une table.
Mais
et
exactement.
Les laisser parler,
et avec un intérêt évident à avoir des gens qui vont s'affronter de façon frontale, donc excessif d'un côté et de l'autre, au lieu d'entrer dans la nuance des sujets.
Et du coup, les questions sociales sont passées au second plan dans le débat public, et c'est la raison pour laquelle on a choisi d'en parler.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
C'est une crise sociale majeure que nous avons connue il y a quelques mois, qui nous amène à tenir compte des attentes des Français. Ce n'est pas un budget technique, un budget est un acte politique qui tient compte de la situation économique mondiale et des attentes des Français.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'était le 25 septembre, et ce qui est intéressant, c'est de voir justement les conséquences, l'impact des mesures sociales, des mesures fiscales du gouvernement. Et comme vous aimez les études et les textes techniques, Gilles, vous en avez une passion fascinante. Vous lisez chaque année l'IPP. L'évaluation que rend public l'Institut des politiques publiques examine l'impact du budget de la nation sur les ménages. Et quelle est la conclusion que vous tirez de ce dernier rapport qui a été publié ?
L'Institut des politiques publiques, qui est un institut indépendant, est très compétent, qui est en lien avec l'école d'économie de Paris qu'avait créé Daniel Cohen. Il y a deux études qui ont été publiées cette semaine. Il y a celle de l'IPP et il y a une étude de l'INSEE qui porte à peu près sur les mêmes sujets. Ce que la presse a beaucoup retenu, c'est une formule Emmanuel Macron, finalement, c'est le président des classes moyennes. Quand on regarde les effets en termes de redistribution des mesures du budget...
Après avoir été le président des riches, on a dit lui qu'il était le président des classes moyennes.
C'était ça l'élément nouveau. Et ce n'est pas complètement faux. Si on exclut les 25% les plus riches et les 25% les plus pauvres, ce sont les 50% du milieu qui tirent le plus de bénéfices des mesures qui ont été prises. Mais, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, c'est une partie seulement de la réalité. L'autre partie de la réalité, c'est que Emmanuel Macron reste, malgré tout, le président des riches. Si on fait un zoom sur cette photo des 100% de Français, si on regarde même pas les 10%, même pas les 1%, mais les 0,1% des Français...
Les plus riches.
Les plus riches des plus riches, ce sont eux qui en profitent le plus. C'est la conséquence logique des suites de la suppression de l'ISF et de la flat tax. Et si on regarde, non pas en zoomant la photo, mais si on regarde le film, ce qui va se passer jusqu'en 2020, pour l'instant, nous n'avons pas intégré, enfin, l'IPP n'a pas intégré, puisque, par définition, ces études portent sur les budgets de 2018, 2019 et 2020, les effets de la suppression de la taxe d'habitation, qui va maintenant rentrer en vigueur pour les 20% les plus riches, et donc, au bout du compte, on aura encore un président Macron qui sera le président des riches. Mais je termine par là d'un dernier mot. Le véritable problème n'est pas seulement qu'il est le président des riches ou des très riches, c'est qu'il n'est pas le président des pauvres. L'autre élément, vous receviez hier Olivier Noblecourt, l'autre élément, c'est que ceux qui bénéficient le moins des effets des politiques budgétaires et fiscales, ce sont les plus pauvres.
Natacha, vous partagez le diagnostic ?
Je partage totalement le diagnostic, c'est-à-dire que les slogans « président des riches », « président des classes moyennes », ce sont des slogans qu'on aime bien brandir comme ça. Et en effet, il faut regarder finement. Bien entendu, président des très très riches, c'est-à-dire vraiment cette toute petite frange qui a bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, sachant que on a vu les résultats de cette mesure, à savoir qu'il y a moins d'investissement dans l'économie, en particulier dans les PME, ce qui est tout de même assez affligeant. Moins aussi d'aide de mécénat pour des grandes causes, ce qui prouve là aussi que visiblement c'était l'incitation fiscale qui faisait la générosité de ces très très riches. Et quand on retire cette incitation fiscale, ça ne marche plus.
Mais président des classes moyennes, là vous n'applaudissez pas.
Oui, c'est pas une question d'applaudir, c'est que il est le président des classes moyennes parce qu'il a vécu les gilets jaunes. Et que ce budget, aujourd'hui, est aussi la conséquence de cette prise de conscience et qui a forcé à mettre en avant cette dimension-là. Et enfin, en effet, je rejoins Gilles sur la question de la pauvreté. Et on peut souligner qu'en fait, il y a dans la logique macronienne cette idée qu'on va favoriser ceux qui travaillent. Et que du coup, on va laisser un peu de côté ceux qui n'entrent pas dans le système, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne peuvent pas. Et ce creusement de la pauvreté, il se joue là, en fait. Mais il est en train de se montrer préoccupant.
Mais je reprends l'expression de président des classes moyennes que vous employez, Gilles. Est-ce que c'est une réponse ? Est-ce que c'est le signe que le président de la République a répondu à la crise des gilets jaunes ?
C'est la conséquence des mesures qui ont été prises, dont pour une partie, elles ont été subies par le mouvement. Pour une partie, elles étaient dans le programme d'Emmanuel Macron et elles ont été anticipées. L'effet, c'est que par rapport à la même étude que l'IPP avait faite l'année dernière, eh bien, la distribution des bénéfices a changé et que ce ne sont plus seulement les plus riches, ce sont les classes moyennes. Cela dit, si on se projette à la fin du quinquennat, le risque pour Emmanuel Macron, c'est qu'on ait un quinquennat qui soit un quinquennat anti-redistributif. C'est-à-dire que l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres se soit substantiellement creusé pendant le quinquennat, d'autant que il faut bien comprendre que cette étude, elle porte sur l'impact des mesures fiscales et budgétaires. Ça veut dire qu'elle ne tient pas compte du tout des mesures salariales. Et comme les mesures salariales ont plutôt tendance à accroître elles-mêmes ces inégalités, on peut parier que dans 3 ans, quand on fera le bilan, la prochaine étude de l'IPP ou celle de l'INSEE, elle se traduira par une augmentation des inégalités.
Un mot encore, Natacha ?
En fait, ceux qui aujourd'hui voient leur pouvoir d'achat, leur revenu baissé, ce sont les riches, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans les classes moyennes, ceux qui sont la bourgeoisie, mais la bourgeoisie, justement, qui ne bénéficie pas de ce capital qui, lui, est exonéré désormais de l'impôt sur la fortune. Donc, c'est ceux-là qui, aujourd'hui, payent, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas fluides, en fait. Mais la toute petite partie des très très riches, à qui le système de dérégulation profite depuis déjà 40 ans, sont ceux qui sont les plus favorisés aujourd'hui par la politique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est dans l'amplification du phénomène qu'on voit à l'œuvre depuis 40 ans et dont auquel la France avait résisté par son système. Et là, en revanche, il s'amplifie avec quelques redistributions sur les classes moyennes, mais je suis d'accord avec Gilles, le creusement des inégalités risque de se poursuivre.
On est encore en pleine lutte des classes ?
Warren Buffett disait la lutte des classes existe toujours et ce sont les plus riches qui l'ont gagnée. On est toujours dans un conflit de répartition, à l'évidence. Je reviens juste sur un mot qu'évoquait Natacha en parlant des plus riches, en disant ceux qui sont les plus fluides. Je crois que l'autre enjeu pour Emmanuel Macron, c'est pas seulement la redistribution, c'est la mobilité sociale. C'était ça dont il faisait le marqueur social, oui, de son quinquennat. Et donc là, un certain nombre de mesures ont été prises. Pour le coup, il est trop tôt pour en faire le bilan, mais si au moins il y avait un peu plus de mobilité sociale, le quinquennat n'aurait pas été totalement perdu.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Pour moi, on est tous à la prison. On n'accepte pas du tout ça. On va continuer à lutter jusqu'au bout. Jordi Cuixart, c'est un exemple de lutte dans le même point qu'ils ont fait à l'India, Gandhi ou à Martin Luther King. Parce que ce n'est pas une question uniquement d'indépendance, c'est une question très claire de liberté.
C'était la voix d'un manifestant catalan mardi dernier à Gérone, parce que ça se passe justement de l'autre côté des Pyrénées. En Catalogne, les manifestations se poursuivent depuis la condamnation à des peines lourdes, des peines de 9 ans à 13 ans de prison de militants de l'indépendance catalane. Comment est-ce que vous regardez ce mouvement-là, Natacha ?
Alors, je pense qu'il faut, pour le comprendre, rappeler 2-3 choses. Je ne suis pas particulièrement partisane de l'indépendance de la Catalogne, je pense que personne n'y gagnerait. En revanche, il y avait eu un accord en 2010 voté par le Parlement espagnol et par le Parlement catalan sur le statut de la Catalogne. Tout le monde était content. Puis revient au pouvoir le PP, le Partido Popular de Mariano Rajoy, qui casse cet accord et qui donc jette de l'huile sur le feu en expliquant qu'il est hors de question que les Catalans puissent se dire une nation, etc. etc. D'où le fait que vous avez ensuite une politique jusqu'au boutiste des élus catalans. Ces élus catalans, dans leur politique jusqu'au boutiste, réclament le droit d'organiser un référendum. Ils demandent pas de immédiatement fermer les frontières. Pourquoi ? Ils demandent le droit d'organiser un référendum d'autodétermination. Vous savez, un truc qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Oui.
Mariano Rajoy refuse mordicus. Ils organisent quand même ce référendum, qui certes n'est pas constitutionnel, mais qui se passe, voilà, juste comme une consultation. La police vient empêcher les gens de voter, parfois de façon violente, alors que, à ce moment-là, les manifestants catalans, les indépendantistes catalans respectent une non-violence totale. C'est ça ce qui s'est passé. Et les élus qui sont aujourd'hui condamnés, ce sont des élus, ce ne sont pas des militants, ce sont des élus catalans qui sont condamnés entre 9 et 13 ans de prison pour avoir organisé un référendum, certes non constitutionnel, mais enfin tout de même un vote, quoi. Et ils sont condamnés pour sédition. Puigdemont, qui est aujourd'hui exilé en Belgique, s'est vu menacé d'extradition. Enfin, l'Espagne a demandé son extradition à la Belgique, qui a répondu, mais dans quel monde vit-on ? Chez nous, la sédition, c'est quand on prend les armes contre son pays. On ne pense pas que ce soit vraiment ce qui s'est passé. Donc les Belges sont des gens raisonnables. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer pour bien que les gens comprennent ce qui est en train de se passer.
Gilles ?
Rien à redire à la chronologie que vient de décrire Natacha. C'est un exemple presque archétypique d'un engrenage dans lequel, pour dire les choses clairement, la droite espagnole et les indépendantistes les plus radicaux se mettent dans une situation qui était une situation complexe et qui devient maintenant totalement inextricable. Exactement pour l'enchaînement qu'a décrit Natacha Polony à l'instant, avec de la violence qui est un élément tout à fait nouveau, puisque ce qui caractérisait le mouvement indépendantiste catalan,
c'est qu'il était non violent.
Alors ce n'est certes qu'une minorité, c'est une réaction de colère aux peines sévères qui ont été infligées. On peut débattre après de manière... Les peines, facialement, sont des peines extrêmement élevées. Hein, vous l'avez dit, de 13 ans jusqu'à... Alors, ça dépend, 9 ans, 1 an pour les plus faibles. Maintenant, l'exécution de ces peines en Espagne fait qu'à partir du quart de la peine, vous pouvez sortir de prison. Et donc, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà passé 2 ans, en réalité, ça sera des peines plus légères. Mais on est face à cet engrenage. Et puis, ce qui me frappe quand on regarde pas seulement le mouvement indépendantiste en Espagne, mais quand on regarde les mouvements indépendantistes en Europe, c'est que ils ont tous une forme d'identitarisme, d'exacerbation de la question de l'identité, et aussi, il faut le dire, une forme d'égoïsme. Ce sont à chaque fois les régions les plus riches qui veulent se séparer des régions les plus pauvres. C'est vrai en Belgique avec les Flamands, c'est vrai en Italie avec l'Italie du Nord, et c'est vrai en Espagne avec la Catalogne.
C'est Natacha. Tout à fait ça, et en fait il faut faire un tout petit peu d'histoire. D'abord, première chose, rappelons quand même que le Partido Popular en Espagne est l'héritier direct du parti franquiste, hein, et que quand on écoute les propos de certains membres de ce parti, on est quand même assez surpris du fait qu'il n'y a jamais eu de, on va dire, une légère remise en cause du franquisme. Jamais. Deuxième chose, comme il y a eu une transition démocratique, en fait, au moment de cette transition, il faut bien se placer pour un Français, c'est compliqué, mais l'Espagne n'est pas un pays jacobin. C'est un pays où il y a différentes nationalités. Et le statut de ces nationalités, que Franco avait essayé évidemment d'éradiquer les différences entre les nations espagnoles, et donc c'est d'ailleurs c'est pour ça que le par exemple État à l'époque était un parti qui luttait contre la dictature franquiste. Voilà. Et au moment de l'indépendance, les Basques ont négocié ce qu'on appelle le concierto economico, c'est-à-dire le fait qu'ils récoltent eux-mêmes l'impôt et que c'est donc eux qui maîtrisent en quelque sorte leurs finances. Ce que les Catalans n'avaient pas jugé bon de réclamer. Et aujourd'hui, les Catalans, en fait, regrettent ça. Ils n'ont pas leur concierto economico, ils ne maîtrisent pas l'impôt. Et en effet, il y a une part d'égoïsme de leur part. Simplement, rappelons aussi que la Constitution espagnole, et je suis toujours effarée que ça ne choque pas des démocrates ailleurs en Europe, par exemple, son article 8, puisque tout ça a été négocié avec les restes du franquisme, son article 8 dit que c'est l'armée qui est garante de la cohésion nationale. Ça veut dire, et d'ailleurs, il y a quelques années, un général qui a dit, mais si c'est comme ça, on envoie les chars, puisque, selon l'article 8, nous sommes garants de l'unité nationale. C'est effarant.
Gilles, oui, avant d'accueillir notre invité.
Juste d'une phrase, maintenant, si on se tourne vers l'avenir, l'Espagne est en plein chaos, elle est en chaos, dans le chaos en Catalogne, elle est dans une forme d'instabilité politique, mais elle va organiser les 4e élections législatives en 4 ans dans quelques semaines, c'est le 10 novembre prochain, et on peut espérer que Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, dispose d'une majorité enfin, et que en Catalogne, les indépendantistes de gauche fassent une progression et que enfin le dialogue se renoue entre Madrid et Barcelone.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Bertrand Badie.